Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui renverse des tasses.
Bonjour.
Salut. Ça va, il n'y a pas eu trop de casse, le café a été renversé, mais on n'a pas tué trop de bouquins. Les geeks en ont un peu souffert, mais fort peu.
Oui, mais c'est normal. Un geek qui prend du café dans la tête, c'est normal.
Ça leur va bien, ça leur va bien. Aujourd'hui, nous allons parler, comme diraient d'autres podcasteurs, de plein de choses. On va commencer, je voulais juste dire que j'ai fait de la vraie radio. J'ai fait de la vraie radio, une petite radio amateur, bénévole associative, qui s'appelle Radio Zinzine, qu'on peut entendre dans la région d'Aix et ailleurs, je crois, mais bon, je connais pas toutes leurs ondes dans tous les sens. Et un certain Perceval a une émission culturelle tous les 15 jours, auquel, avec mes amis de la librairie La Bédérie, nous avons été conviés pour parler de bande dessinée. C'est sympathique, ça change un peu d'être dans un vrai studio, etc. Alors bon, ils font ça avec les moyens du bord, mais ça fait quand même vachement plus pro que ce qu'on a nous. Tu sais, t'as une vraie régie avec une console et tout, enfin c'est classe quoi. Et puis c'est du direct aussi, l'enregistrement, alors ça change. On peut pas faire de time warp, tu vois, j'ai essayé, je fais time warp. Et non, j'ai plus mon time warp, tu vois, non, ça marche pas. Enfin bon, on est obligé de faire gaffe, il y a pas de montage derrière, tu vois, on peut pas couper nos non mais attends, je sais plus, voilà.
Mais attends, on pourrait le faire si tu veux, on fait un truc en direct.
Ah oui, il faudra couper ce blanc alors. Hein.
C'est toi qui viens de le faire, le blanc. Pour une fois, je ne suis pas responsable du blanc.
Bon, allez, c'est parti. Nous allons démarrer tout de suite avec du presque neuf aujourd'hui avec Scott Pilgrim numéro 3 chez Milady.
And the Infinity Sadness.
Pour 6,99€. Je trouve qu'ils auraient dû le faire à 6,66€, ça aurait été la classe.
Ouais, mais ils perdaient quand même 3 euros. Enfin, 3 francs.
3 francs,
ouais. Il parlait 3 francs, waouh! Donc, nouvel épisode de Scott Pilgrim, donc nouvel adversaire.
Où en étions-nous? Ouais, alors ce qui me surprend, c'est qu'il y a 6 épisodes prévus et donc il y a 7 adversaires. Donc il y a un moment où il va en latérin la gueule très vite, je pense.
Parce qu'en fait, il y en a, c'est des siamois. C'est pour ça, ça fait 2 d'un coup.
Tu peux me dire que c'est possible, ils en seraient capables.
Ah oui, non, mais moi, je dis ça. Théorie minute. Hein. Donc Scott Pilgrim. Donc Scott retrouve une de ses ex, Nathalie, mais qu'il faut appeler
Envy.
Envy. Et donc Envy donc a un nouveau copain qui s'appelle Todd
et qui est
un ex Todd Ingram qui est un ex de Ramona.
Voilà. Sachant que Envy a un groupe de musique qui cartonne.
Oui, le groupe c'est The Clash at Demon Head.
J'adore les noms des groupes qu'il y a dans cette BD. Ça me donne trop envie de créer un groupe qui aurait ce nom-là.
Après, c'était quoi l'ancien groupe de Scott? C'était les Caméléons?
Oui, les Karma Caméléons? Non.
Je sais plus.
Karma Caméléons, c'est autre chose.
Je l'ai. Le Kid Caméléon.
Kid Caméléon, ouais. Mais c'était un jeu vidéo, Kid Caméléon?
Oui,
c'était un jeu vidéo sur Sega, je crois, Kid Caméléon. Qui avait cartonné à l'époque. Non, mais tu vois les références, les Sex Bobombes, les. Enfin bon.
Ok. Non, je te crois.
Les Sex Bobombes, tu vois la référence là au jeu vidéo quand même. Ouais, non.
Je sais pas, un truc avec un petit bonhomme en 2D, ça, qui se balade.
Ouais, qui se balade avec une. Tu vois, bon, ouais. Bien, tu vois ce que sont les bobombes.
Ouais, c'est ça, le jeu à 4 où du coup, à la fin, tu finis soit par t'entretuer directement sur le canapé, ou alors il y en a un qui claque la porte.
Voilà. On aurait pu faire un petit hors sujet sur le Mario, le dernier, sur la Wii, mais bon. Revenons à notre sujet.
Scott Pilgrim.
Voilà. Et donc, bah forcément, ça devient compliqué parce qu'il y a Envy qui s'amuse à vouloir faire chier Scott parce que c'est son ex. Je crois, hein, c'est juste pour ça, en fait.
C'est ça.
Et tu as Todd qui est l'ex de Ramona. Lui, il a l'air cool, en fait. Hein.
Ouais, mais il est végétalien.
Il est végétalien. Et comme tous les végétaliens.
Il a des pouvoirs psy.
Il a des pouvoirs psy. Et comme il a des pouvoirs psy, et il fait partie de l'ordre des végétaliens.
Oui, parce qu'il est allé à l'école des végétaliens, ouais. Il a sorti premier et tout, parce que c'est très dur d'y rentrer. C'est...
Enfin, je trouve ça assez marrant, parce qu'effectivement, je ne connais pas de végétaliens, mais quand on entend parler des végétaliens, ça fait un peu secte. Hein. Je fais partie des végétaliens. Ah bon ? Ah, bravo et tout, je fais partie de l'ordre des végétaliens. Si des végétaliens nous écoutent, sachez que je n'ai rien contre vous. Donc,
non, la faute c'est Brian Lee O'Malley.
Oui, c'est, oui, lui, c'est vrai, c'est lui.
C'est lui, vous, c'est lui que vous percez pour des pour une secte. Donc dans ce tome, bon, mais encore de la baston, on va encore tomber un nouveau boss donc dans le dans le jeu.
Encore du romantisme aussi. On est entre la comédie romantique et le truc d'action. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a encore du romantisme.
Il y a encore du romantisme. Mais heureusement, il a pu faire son petit point de romantisme juste avant le point de sauvegarde, ce qui fait qu'il pourra le regarder après.
Ouais.
Et, mais à la fin, il a quand même réussi aussi à avoir un petit joueur en plus, une extra life.
Oui, une extra life, ouais, parce que forcément. Ça, je sens qu'à un moment dans, dans la série, oui, parce qu'il attrape une vie. Je pense qu'à un moment dans la série, il va mourir pour pouvoir utiliser sa vie. Je pense qu'il... Bon... Je crois que les gens auront compris à la façon dont on parle de cette bande dessinée que ça part dans tous les sens, qu'il y a un côté chaotique.
Chaotique. Chaotique est le mot juste.
Multi-référencé. D'autant qu'en plus, dans cet épisode, il s'amuse à nous faire des flashbacks dans tous les sens. Pour nous montrer Scott quand il était plus jeune. Quand il avait l'âge de son ex.
Oui, mais sauf que du coup, ouais, sauf que du coup ça devient quand même assez, assez complexe à suivre parce qu'il y a tellement de personnages. Et en noir et blanc, et avec un style graphique qui des fois est un peu trop, on va dire, uniforme.
Bah, surtout qu'en fait, là où ça devient difficile pour moi, c'est par exemple qu'il y a le nouveau copain de... comment il s'appelle Shaw.
Shaw.
Voilà, de Knife Shaw, qui ressemble à Scott. C'est volontaire, hein, c'est pour dire qu'en gros, elle a cherché un gars qui ressemblait à Scott. Et que parfois, d'une case à l'autre, entre le vieux Scott avec sa vieille coupe de cheveux, le nouveau, etc., plus Scott qui change de coupe de cheveux en cours d'épisode... avec un dessin qui est assez minimaliste en fin de compte, enfin minimaliste simple on va dire, je dis pas minimaliste quand même parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, hein, mais un dessin simple, on a parfois tendance à se perdre un peu dans l'histoire. Mais heureusement, ils nous ont mis un super résumé de la situation des personnages, sauf qu'il est à la fin.
Ouais.
Donc je vous recommande, si vous tombez sur Scott Pilgrim 3, lisez ce petit résumé à la fin qui est très très bien foutu.
Mais lisez-le avant de commencer.
Voilà, et qui vous permettra de remettre les choses dans l'ordre et savoir comment bien lire. En dehors de ce côté chaotique, as-tu pris du plaisir à lire ce Scott Pilgrim?
J'ai pris du plaisir à le lire.
T'étais plus... les premiers, t'avais un peu laissé circonspect.
Ouais, le premier m'avait, on va dire, un peu surpris. Le deuxième m'avait laissé vraiment dubitatif.
Ouais.
J'ai replacé le mot.
Ouais.
Mais là, le troisième, j'ai bien rigolé, en fait. Bon, par contre, voilà, là, je pense qu'on est... Enfin, c'est vraiment... comme je disais la dernière fois, c'est vraiment... Je crois que c'était le mot que j'avais utilisé dans le premier, c'est un truc complètement barré. Je pense que ça s'accentue et ça va aller que crescendo.
Et pourtant, c'est bien construit, moi, j'ai l'impression.
C'est bien construit, mais c'est du grand nawak. Ça part dans tous les sens. On revient en arrière, on te réexplique des trucs.
Est-ce que tu penses, comme beaucoup peuvent le dire, que Scott Pilgrim va être la bande dessinée de référence des geeks des années 2000-2010 ? Peut être considéré comme une sorte de bande dessinée de référence à ce niveau-là ?
Je ne suis pas certain.
Ouais. Bon, après, pour trouver cette bande dessinée de référence, c'est un peu pas évident, forcément, mais...
Je pense que la bande dessinée sera pas une référence. Peut-être que le film, peut-être, pourra faire figure de référence geek de la mort, mais je pense que les BD...
Et peut-être aussi parce que sur le film, ils vont avoir une intrigue moins diluée, qu'ils vont être obligés d'avoir quelque chose de plus cohérent, un scénar, je dirais, mieux construit, plus à l'américaine classique. On verra. J'ai hâte de voir ce film, quand même.
Ah, et pas le réalisateur de...
Hot Fuzz.
Et de Shaun of the Dead.
Mmh. Deux films que j'ai beaucoup aimés. Hot Fuzz étant très frais.
Très frais, parce qu'on l'a regardé donc notre premier samedi du mois.
Oui.
Oui, parce qu'en fait, il fallait quand même qu'on explique que le premier samedi du mois, nous faisons une soirée où nous regardons des vieux films.
Voilà. Enfin, vieux, Hot Fuzz, bon.
Ouais, si, attends, la dernière fois, on avait quand même regardé L'Arnaque.
L'Arnaque, ah, qu'est-ce que c'est bien, L'Arnaque. Bon, mais je crois qu'on est en plein dans le hors-sujet, là, totalement. Je crois qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur Scott Pilgrim. Hein. C'est bien, ça vaut le coup. J'ai hâte d'avoir la suite, moi, de savoir comment ça va évoluer. Surtout comment ça va finir. Je vois pas comment peut finir cette histoire. Ah, non, tu vois pas non plus.
Bah, une fois qu'il a fini de dessouder tous les copains de Ramona, Ramona le quitte.
Ah ouais, ça pourrait être pas mal.
Et en fait, il va devenir lui aussi un des ex-petits amis diaboliques. Surtout en plus que là, on a quand même des révélations un peu sur Ramona.
Oui.
Parce que Envy, qui vient aussi de New York, qui a séjourné à New York,
qui lui dit que Ramona est pas si gentille que ça.
Elle sait des choses sur elle. On a pas
moi,
trop...
j'ai beaucoup aimé ce personnage de Envy où on la voit évoluer, changer, passer de la fille sympa et puis petit à petit.
Elle est pétasse quand même.
Elle vient un peu pétasse. Mais je trouvais que ça m'a rappelé. Enfin, ça sent un peu le vécu dans le sens des amis d'enfance qui ont changé, tu vois. Tu veux en avoir des comme ça. Ouais, voilà. Je trouve que c'est assez bien amené et que c'est ce que je trouve, ce côté BD intimiste nord-américaine, sauf que là, ils se fight contre des végétaliens avec des pouvoirs psy qui font des trous dans les lunes.
Et qui est la police végétalienne.
Ouais, la police végétalienne. Bon, passons à la suite avec...
Du lourd.
Frais. Du frais.
Du frais.
Du frais. Donc, frais par Joss Whedon et Carl. Ah, j'ai oublié son nom. Carl Modine.
Molin.
Carl Modine, tu vois, j'ai presque. Carl Molin.
Non, c'est Matthew Modine.
Ouais, d'accord.
Carl Molin et Matthew Modine.
Voilà, bon, c'est pas grave. Joss Whedon et Carl Molin chez Fusion Comics.
À 15,95€.
Mais. Joss Whedon, je le connais, c'est le scénariste de. Mais oui, des X-Men, là.
C'est.
Bah oui, il a été scénariste des X-Men.
Mais oui, bon. Oui, non, il est connu d'ailleurs que pour ça.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il n'a rien fait d'autre à part ça.
Par le créateur de Buffy, c'est ce qui est écrit sur la couverture.
Buffy oui. Contre les vampires.
Ah, et puis d'Angel aussi, et de Firefly. Et de Dollhouse. Pas mal aussi, Dollhouse, moi j'aime bien. Et le futur réalisateur de. Avenger! Oui, oui, c'est lui qui va réaliser Avenger.
Ouais, enfin, là, par contre, je suis un peu plus circonspect quand même.
Mais bon. Il gère bien les équipes en général.
Le futur de Buffy contre les vampires, saison 8, quand même.
Voilà. Enfin, le futur de Buffy, en fait, tout court. Hein. Frey, qu'est-ce que ça nous raconte ? Frey, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Melaka Frey, dans un monde futuriste. Et en fait, on découvre que Melaka Frey est une tueuse. En gros, qu'elle a un destin comme quoi elle va devoir latter la gueule de tous les vampires, comme ça a été relaté dans Buffy. Nous avons déjà rencontré ce personnage auparavant dans un des épisodes de Buffy où il y avait un crossover entre les deux séries. Cette série, je l'ai trouvée très intéressante. Donc en gros, on a Frey qui découvre qu'elle est une tueuse. C'est un monde futuriste classique, on va dire, avec les pauvres très pauvres, les riches très riches, des magouilleurs. Elle, c'est un peu une voleuse. Elle va aller chercher des choses un peu dans tous les sens. Elle a les dons de tueuse, donc elle est super forte, super agile, super balèze. Elle fait des sauts de building sans se faire mal. Mais... Et presque, elle trouve ça normal. Mais elle n'a pas les visions qu'ont les tueuses.
Elle n'a pas le souvenir de ce qu'elle a... De ce
et les révélations de leurs anciennes vies, comme l'ont la plupart des tueuses.
Et ce, parce que...
Parce que... Je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire, tu vois. Si c'est pas... Parce que c'est une révélation qui était sympa, je trouve.
Et ce, parce que...
Et ce, voilà.
Ta-ta-ta-ta-ta.
Eh bien, j'ai trouvé ça super sympa.
Oui, alors contrairement donc au Buffy où je me faisais quand même un petit peu énormément suer.
Et où moi j'aime bien, mais plus pour le côté nostalgique qu'autre chose.
C'est ça. Et ben là, franchement, je l'ai lu d'une traite, vraiment avec plaisir. Sympathique. On retrouve donc l'univers de Buffy. On retrouve ouais. Un petit peu donc les mêmes personnages.
Mais il y a moins de références à tout ce qui s'est passé avant, donc déjà c'est plus facile à suivre.
Donc, si, c'est juste la trame, quoi. C'est-à-dire les observateurs, les tueuses, les démons.
Mais ils nous refont le point, quoi. Donc
voilà, mais. Et après, tu pars dans l'histoire. Et là. Sympa.
T'as pas besoin d'avoir cette saison de la série derrière pour connaître tous les personnages, leurs détails, etc. Et ils partent pas du principe qu'on les connaît. Ce qui fait qu'on a une histoire qui est vachement plus facile à suivre, vachement plus sympa à lire.
Très dynamique, et puis avec, je trouve, un trait qui est sympa.
Ah, moi, j'aime bien le dessinateur. Franchement, je le trouve très sympa. C'est assez inégal quand même. Il y a des fois, il y a des dessins qui en jettent. Des fois, les visages sonnent un peu bizarres. Sur les scènes d'action, c'est très bien foutu. Plein de trouvailles sympas. Alors, il rejoue le coup qu'il avait fait dans le précédent. Enfin, bon, ça, c'est sorti avant, le tome de Buffy qu'on a lu aux États-Unis. Il refait le coup du langage futuriste un peu modifié. Il y a une intro de Joss Whedon qui explique bien que lui, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il savait qu'il ne ferait pas un truc futuriste original et que donc il a fait un truc pas original dans lequel il pourrait faire quelque chose qui l'amuserait. J'ai retrouvé un peu l'approche qu'avait pu, que peut avoir Robert Kirkman sur Invincible.
Ouais.
Ce côté histoire bien écrite, bien menée, pas prise de tête. Un tome vraiment sympa. Je crois qu'il n'y aura pas de suite, par contre. De toute façon, l'histoire
se suffit
elle-même, même si elle amènerait une suite. Hein. Bah, la suite, si. Alors, c'est le problème. La suite est dans la BD Buffy qui est déjà sortie, où en fait, il y a un grand méchant et il me semble qu'il latte le grand méchant dans la série Buffy, quand Buffy va dans le futur. Je m'en souviens plus trop. Ça donnerait envie de dire. J'aime beaucoup son acolyte, le bourrin démon, là.
Ouais.
Il est très sympa. Plein de trouvailles sympathiques. Bref, une bonne série avec des dessins bien cool.
Yep.
Voilà.
Et là, nous arrivons au Scorpion.
Le Scorpion, tome 9, par Marini et Desberg, chez Dargo, au doux prix de 14,90€.
Pourquoi t'accentues sur 14,90€ ? C'est ça que tu trouves, c'est cher ?
C'est mon côté Belmar.
Ouais, ok. Alors donc, troisième tome donc, du deuxième cycle.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu viens de fracasser un de mes bouquins. Tu as donné... Montre-moi ce que t'as fait. Montre-moi, c'est toi. Oh, il a donné un coup de tranche sur la reliure. Ça l'a fracassé. Bravo. Bon, c'est pas grave, c'est frais. C'est pas. J'aurais eu mon tirage de tête de l'enfeust, j'aurais fait vachement plus la gueule, je crois.
Bon, donc là, je bouge plus en fait. Je reste juste devant mon micro et j'arrête.
C'est pas très des catastrophes, j'ai l'impression, entre le renversement de café et.
Et pourtant, on n'est pas un vendredi 13, il n'y a pas de. Non. Bon. Alors, donc, le nouveau Scorpion. Tome 9, donc on se poursuit donc, l'histoire donc, de notre valeureux bretteur voleur Don Juan.
Baiser.
Don Juan, moi j'étais resté quand même soft. Hein. Et donc de la famille Trebaldi, dont un des fils donc, est devenu le pape. Ouais, ça c'était déjà dans
un premier cycle.
Dans un premier cycle. Et donc le Scorpion est en train d'essayer d'enquêter donc, sur son histoire propre, essayer de retrouver.
Sur sa maman.
Sur sa maman. Parce que visiblement il serait.
Elle serait la clé pour faire tomber les Trebaldi.
Sachant que son papa donc, serait Cosimo
Trebaldi. Même si j'ai un doute. Hein.
Pour l'instant, on en est là.
Voilà. Bon. Ça n'a jamais été dit clairement, mais j'avais un doute dès le départ. Mais là, on ne nous dit pas qui. Enfin, on ne sait pas, mais. Il y a du mystère.
Bon, il y a du mystère, il y a toujours des révélations. On retrouve des personnages donc, des tomes précédents. On a le retour d'un personnage qui était soi-disant mort. Et là, moi aussi, j'ai même un doute sur qui est en fait derrière le masque.
De Roquenant ?
Ouais, Roquenant, ouais. Parce que là, du coup, je.
Ah. Oui, c'est vrai que tu l'as pas fini, toi.
Et non, parce que tu me l'as pris avant. Donc, du coup.
Moi, j'ai plus de doute sur qui est derrière le masque. Il n'y a pas de souci.
Ah, toi, t'as vu la fin. Mais moi, j'ai pas encore terminé. Donc, du coup, quand j'ai vu le personnage revenir, j'ai fait ah, je sens que Trebaldi va se faire avoir.
Ouais, ouais.
Parce que le Roquenant qui ressort comme ça d'un coup. Hello, les gars, c'est moi, je suis de retour. Ouais, je suis passé par les pires moments de ma vie, mais je suis là. I'm back.
Bizarrement, je suis un personnage masqué.
Le personnage masqué, c'est trop bien.
Ouais, enfin, ils l'ont déjà utilisé plein de fois, le coup du personnage masqué qui n'est pas qui on croit qu'il est.
Oui, mais pas dans le Scorpion.
Si.
Non.
Si.
Non.
Si.
Je vois pas de quoi tu parles.
Dans le même cycle, il se fait passer pour un des gardes, le Scorpion. Voilà.
Je l'ai souvent, tu vas avoir toujours raison quand même.
Voilà. Bah oui, mais moi j'ai relu tout le début du cycle parce que ça remontait.
Bon, moi je trouve une très bonne histoire, un graphisme qui est toujours aussi magnifique. Moi ça m'a vraiment. Voilà, je pense que juste déjà pour les images, ça reste quand même.
Les images sont belles. Alors moi je dirais qu'on est dans le blockbusters de la bande dessinée franco-belge, mais le gros blockbusters. C'est-à-dire qu'on a un scénario où en fin de compte, c'est très convenu. On a notre petite révélation de l'épisode, parce qu'il faut toujours une petite révélation par épisode. On a nos scènes de baston, on a notre scène de cul rituel, histoire de montrer les superbes femmes de Marigny. Ça, on peut, voilà. Un dessin superbe, bien chiadé, on peut rien dire. J'ai trouvé ça sympa, mais c'est très convenu, en fait. Il n'y a rien de bluffant, d'exceptionnel. On pouvait autant, au départ, être super bluffé par le trait de Marigny, par le personnage très charismatique du Scorpion. Mais là, ça suit son chemin. J'ai bien envie de savoir comment ça va se passer après. Mais le scénario m'a pas totalement convaincu.
Donc en fait, on fera un petit parallèle avec Landfest.
Landfest, ouais.
Où justement, donc là, ça c'est le deuxième cycle et toi, tu suivrais pas en fait.
Bah ouais, non, mais même je trouve que il y a un côté plus racoleur. J'ai l'impression que dans du Landfest, tu vois ce que je veux dire. Les scènes où on voit les filles à poil, elles ne servent à rien dans l'histoire, juste à montrer des jolies filles à poil.
La scène du début, parce que moi je l'ai eu qu'à jusqu'à
non,
la moitié.
Non, mais on voit des nichons juste histoire de dire qu'ils
oui,
ont baisé.
Mais parce que le Scorpion a un gros souci, c'est qu'il a tellement de femmes dans sa vie qu'il ne sait pas laquelle choisir.
Celle-là est pas mal, celle-là sert, mais il y en a d'autres au milieu. Je veux dire, on voit Marie-Ange à poil, ça n'a qu'un intérêt très limité.
Mais parce que Marie-Ange.
Ils font traîner.
Ouais, mais.
Enfin voilà, non, mais disons que pour moi il y a un petit côté racoleur. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je veux dire, c'est beau. Les dessins de Marigny sont superbes, quoi. Enfin, je trouve ça très très classe. Moi j'adore ce qu'il fait, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait, même au début quand il faisait Gipsy,
ouais.
Que j'adorais, même si à l'époque c'était un fan de Katsuhiro Otomo, ça se voyait beaucoup, ça se voit beaucoup moins maintenant. Enfin bref, c'est convenu, c'est standard, c'est bien calibré, et ça n'a pas ce côté fun que pouvait avoir un Landfest par exemple, justement, dans ce genre de BD blockbuster bien calibré. Voilà, c'est mon avis.
Ouais, ok.
D'autant que voilà, ils en profitent pour faire les 50 000 tirages, les 50 000 scènes de tous les sens derrière. Oui.
Par contre, moi je coupe juste sur un point sur tes 50 000 scènes. Bon, ok, tu l'as peut-être pas. Voilà. C'est que les scènes de fight à l'épée sont excellemment bien reproduites.
Oui. Alors il y a un truc par contre, oui, bah, justement, quand on est dans le par contre, et un truc qui m'a choqué aussi. On a l'impression qu'il aurait eu besoin de diluer plus son histoire d'un point de vue de la narration. En théorie, dans une BD, à la fin d'une scène, on se retrouve à la fin d'une page. Et là, quasiment, très régulièrement, on passe d'une scène à l'autre en milieu de page. Et j'ai trouvé ça assez étrange. D'autant qu'il y a pas mal de flashbacks dans cette histoire. Et que Bah, parfois, il faut un petit temps pour comprendre qu'on est dans le flashback, quoi. Une petite réflexion derrière. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir une planche pour raconter le flashback, où là, on a des bouts du flashback en plein milieu du truc. Ça emmêle un peu les pinceaux, je trouve.
Je suis pas allé au bout, donc là je peux
Voilà,
pas.
donc c'est une petite... là, c'est un petit souci de narration, je trouve. C'est assez léger, mais bon, on ne peut nier. Voilà. On l'a déjà dit, les dessins de Marini sont superbes. Cette couleur directe est magnifique. Les combats à l'épée sont superbes, les scènes
Ils sont très
d'action.
réalistes, parce que du coup on avait vraiment les attaques, les parades et tout ça.
Ouais.
Voilà. Pour ceux qui aiment l'épée, ça fonctionne bien
Et
aussi.
donc, je disais, ils ont fait 50 éditions, l'édition belle, l'édition avec couverture. En plus, il avait annoncé, hein, il avait lancé, vu qu'ils ont réédité tous les tomes avec des nouvelles couvertures pour préparer la sortie du tome 9 avec la nouvelle couverture limitée du tome 9. Enfin,
Ouais,
il y a eu tout un coup marketing très, très, très fouillé dessus.
alors pour la couverture, donc soi-disant,
Oui.
attendez 2 secondes, on a un petit problème de table, toujours de café. Je pense qu'il vaut mieux que je les mette sur les côtés.
Ouais.
Hein. C'est quand même que le tirage en série limitée avec la couverture que vous verrez, parce que c'est celui que j'ai acheté, était au même prix que l'autre tome.
J'en suis d'accord, mais ça
Mais
demande, si tu veux avoir une sorte de continuité dans les trucs, d'avoir les...
au niveau des tranches, ça ne change pas.
Ouais, ça
Donc
c'est bien.
quand tu le ranges dans ta bibliothèque, honnêtement, ça choque pas un brin. Moi, j'ai vu les deux, j'ai regardé les deux, j'ai fait, bah,
Oui,
je vais
non, mais
prendre.
quitte à acheter, je suis d'accord, acheter le truc limité, etc. Mais je crois qu'il y
Oui,
a eu d'autres
mais
tirages
c'est.
encore plus limités derrière.
Oh, attends, après, moi, je suis resté sur les 2 tomes que j'avais. J'ai pris le tirage en série limitée parce que je trouvais que la couverture était plus jolie.
Voilà,
Et
surtout que
sur
c'est
la
pour le même
tranche, ça ne
prix.
change rien dans une bibliothèque quand tu l'achètes, quand tu le
Voilà.
mets avec tes autres bouquins.
Bah moi, cette couverture, justement, tu la trouves plus jolie. Moi, bah, je la trouve. Bon, j'ai pas vu l'autre, donc je ne saurais pas dire. Mais je trouve que donc c'est de la peinture, hein, sur toile. On voit trop le grain de la toile, je trouve, comme si ça avait été un gros agrandissement. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, ce n'est qu'une interprétation personnelle. Mais je pense que nous avons passé assez de temps sur le scorpion.
Et nous passons donc à un
Voilà.
autre gros, 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 gros blockbusters.
Black Sad. Alors là, on est dans le méga blockbusters.
L'enfer, le silence.
C'est le tome
4.
4. Je suis toujours chez Dargo, spécialiste du Blockbusters en ce moment, ils ont tous prévu, au coût de 13,50. Et ce qui est très marrant, c'est que le Black Sad est moins cher que le Scorpion, alors qu'il est plus gros. Sans doute doivent-ils en vendre plus.
C'est possible.
C'est possible. Alors, ce Scorpion,
Non, ce Black Sad.
ce Black Sad, oh. C'est moi qui dois en parler, je sais plus.
C'est toi, c'est ton
Ouais,
tour. Mais
c'est
enfin,
mon
si tu veux, j'en
tour.
parle moi,
Ouais,
hein, ça ne
bah.
me dérange pas.
Alors, Black Sad, nous retrouvons donc notre détective félin dans ce monde où tous les personnages sont anthropomorphes, basés sur des animaux, avec ce trait très particulier, ces couleurs superbes, ce talent pour les expressions faciales vis-à-vis des animaux, ce
Ces
superbe
décors
dessin de
sublimes.
Garnido, voilà, et un scénario très polar de Dias Canales. Que dire de ce Black Sad, si ce n'est que... l'intrigue. Donc, nous avons Black Sad qui doit enquêter sur un artiste qui a disparu.
Jasmine.
Voilà, un jazzman à la Nouvelle-Orléans. Voilà pour l'intrigue de départ et qui va se retrouver donc mêlé à plein d'intrigues autour de l'univers musical de la Nouvelle-Orléans sur des gens qui jouaient, avaient un groupe ensemble il y a un moment. Voilà pour l'intrigue. Je vais vous parler d'un film où c'est l'histoire d'un mec, il doit enquêter sur un jazzman qui a disparu à la Nouvelle-Orléans et qui s'appelle Angel Hart. Voilà, c'était juste une petite... hein? Un
Ouais.
petit... Voilà, bon, clairement, j'ai trouvé ça superbe. Les dessins sont toujours aussi beaux dans Black Sad. Moi, je suis... Ouah, Black Sad, c'est beau, c'est magnifique. Le scénario est sympathique, mais... Alors, je pense que c'est du clin d'œil à Angel Hart, parce que c'est le début, c'est tellement la même chose. Et le gars qui donne l'émission, qui s'appelle Faust, enfin bon.
Oui, non,
Bon,
ça y est
donc
pas.
on est dans le clin d'œil à Angel Hart très très appuyé. Mais le scénario est un polar sympathique. C'est un one shot. Il n'y a rien d'exceptionnel. On n'arrive pas à la fin en disant Oh mon Dieu, c'est ça en fait! Par contre, effectivement, l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, le
Avec
trait.
un tout petit bémol, c'est que je trouve que voilà, ils l'ont fait situer à la Nouvelle-Orléans. Et bon, alors, je sais pas, moi, c'est peut-être mon petit cerveau de français. Pour moi, la Nouvelle-Orléans, il y a des images de suite qui te viennent dans la tête et je les ai pas assez retrouvées. J'ai l'impression qu'ils te disent que c'est la Nouvelle-Orléans. T'as certaines scènes qui font bien penser et puis t'en as d'autres. Bah, tu te retrouverais, tu te dirais, c'est à New York. Ok, c'est à New York. J'ai trouvé que
Ouais,
c'était pas assez accentué.
j'aurais peut-être une envie de voir le bayou
Le
autour,
Bayou.
le carré français, enfin le carré français il y est un peu.
Voilà, moi je crois qu'il manquait, ils ne sont pas allés assez loin dans leur production graphique. Mais bon, après, ça c'est.
Alors, intéressons-nous un petit peu au scénario. J'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de préparer le terrain pour une grosse intrigue. As-tu cette impression? Le marin avec les tatouages.
Ouais. L'ange gardien.
L'ange gardien. Je me souviens plus des thèmes précédents. C'est la première fois qu'on le voit, cet ange gardien.
Moi, c'est. Enfin, bah, disons que en le voyant, parce que donc j'en ai parlé avec ma copine, qui elle aussi suit Black Sad. Enfin, on va dire c'est elle que je lui offre. Comme ça, du coup, je l'ai lu en 12.
Ouais, voilà.
Ça va.
Ouais, non, mais c'est bon. Vas-y,
hey, c'est une bonne méthode pour acheter les bouquins aussi. Ouais. Du coup, je lui offre.
Offrir à sa copine. Non, c'est
tu
bien.
Tu dis, oh, j'aime ça. Alors, du coup, tu dis, hop, oh, tiens, vas-y, nouveau Black Sad qui est sorti. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, nous aussi, l'Ange Gardien nous avait vraiment rien dit par rapport au tome précédent. Je ne les ai pas encore relus pour chercher s'il n'y avait pas une petite référence à un endroit ou quoi. Mais je pense que, ouais, il va y avoir un. Je pense que le prochain tome sera peut-être un peu plus péchu que celui-là et peut-être un peu plus sur la vie de Black Sad vraiment.
Parce que là, c'est vrai que le personnage, il est là, quoi.
Non, il a bien évolué, je dirais, sur les tomes précédents.
Oui, mais là, il est là.
Dans le tome 3, il y a une grosse évolution. Mm. Et bon, là, ce tome 4, on va dire, on le laisse un peu voguer.
Ouais, il est en roue libre, il n'y a rien de spécial.
Il n'y a rien de spécial, je suis bien d'accord, mais peut-être une suite. Bon, en vrai, certains me diront peut-être aussi, c'est juste que c'est un gros blockbuster. Ils ont bien attendu 2 ans pour le sortir.
Parce que j'imagine qu'il faut un temps pour dessiner ça, je veux dire, vu son travail.
Ah, vu le travail, c'est clair qu'il faut du temps.
Il doit y avoir de la recherche, il doit y avoir... Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas beaucoup de pages, quoi. C'est de la grosse BD, il y a combien? Il y a une cinquantaine de pages. Ouais, c'est ça. C'est du gros volume, quoi. 54 pages.
Ouais. Puis surtout quand on sait, enfin, pour ceux qui ont lu, alors là, je me retourne parce que je crois qu'il est encore chez toi.
Oui, il est encore chez moi.
L'histoire des aquarelles, donc de Black Sad, qui est un bouquin qui est paru justement pour expliquer un petit peu le travail de Garnido. Quand on lit comment travaille le monsieur, on est assez ébahi parce que le gars, il va réfléchir à la couleur du carreau qui est dans telle pièce, le motif qu'il va lui donner, ainsi que la peinture qu'il va mettre sur le mur ou la tapisserie. Et là, on se dit, c'est un malade. Mais du coup, c'est vrai que sur le rendu, ça pète.
Par contre, est-ce que tu n'as pas eu cette impression que moi j'ai eu parfois de problèmes de mise en page? Le positionnement des bulles qui parfois n'est pas très naturel. Il m'est arrivé à plusieurs reprises dans ce volume. Alors, je me souviens pas que ça me soit arrivé dans les précédents.
Ça m'a pas choqué, moi.
Que le sens de lecture naturel n'était pas respecté et qu'il fallait chercher la case qu'on devait lire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça manquait de fluidité. J'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que ça casse l'immersion de devoir se lancer dans cette recherche-là derrière. Ouais, non.
Moi, ça m'a vraiment pas choqué. Après, bon, c'est peut-être assez. Ça, c'est mon avis personnel. Hein.
Ouais.
Après, bon. Mais non.
Oui, des planches classe.
Le dîner en terrasse.
Le dîner en terrasse avec les ombres.
Avec les ombres et des feuillages.
Des feuillages qui sont travaillés superbement. Enfin, voilà. Non, mais voilà, c'est surtout graphiquement, en fait, que ça en jette. D'un point de vue scénaristique, on est dans du polar sympathique, mais pas exceptionnel, quoi. C'est une bonne intrigue. Il n'y a pas de...
C'est pas le meilleur Black Sad.
Voilà, c'est pas le meilleur Black Sad.
Si on revient sur Arctic Nation ou...
Ce que j'aime beaucoup, c'est
qu'ils nous annoncent... qui était vraiment excellent.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils nous annoncent bien qu'apparaître tome 5, on est content. C'est un bon indicatif. Il y aura un tome 5, mais alors on n'en sait pas beaucoup plus.
En même temps, on peut pas tuer la poule aux œufs d'or.
Ah oui, je suis d'accord.
Ils savent que quand ils sortent un Black Sad, ils savent qu'ils vont faire des ventes, ils savent qu'ils vont se faire un max de thunes.
Moi, j'ai vu les présentoirs, c'est assez impressionnant. Et nous enchaînons avec The Walking Dead volume 2. Nous sommes en plein rattrapage, hein, donc vous n'aurez pas compris, car le 12 vient de sortir, donc on est en gros rattrapage. Ouais, hein, c'est comme ça. Ah, on a un peu de retard.
Oh, pas vraiment, écoute.
Donc c'est chez Delcourt, c'est ça, c'est Delcourt? Je ne me trompe pas. Ouais, chez Delcourt. Ça coûte 13,50€, c'est en noir et blanc et ça fait plein de pages. Mais je ne saurais plus dire combien, il y en a une centaine et des poussières.
Une bonne 133e.
Oh,
135e? 135e, tiens.
Bon. Nous avions
136e.
Nous avons bien apprécié le premier tome, même si, bon, on attendait de voir comment ça allait évoluer. Et bah, on arrive au tome 2. Et bah, que nous compte ce tome 2, mon cher ami?
Ce tome 2, donc, nos personnages continuent donc leur pérégrination. Ils ont enfin quitté les abords d'Atlanta, parce que c'était trop dangereux. Donc ils partent sur la route.
D'un autre côté, les endroits trop dangereux dans cette série, il y en a beaucoup.
Donc du coup, ils se baladent, ils vont trouver enfin une petite résidence sympa, Wildshire Estate. Et là, ils vont trouver des belles maisons. mais des belles maisons avec des zombies dedans.
Forcément.
Et donc finalement, ils vont encore avoir quelques douleurs, des morts.
Bah oui.
Dans leur groupe. Mais ils ont rencontré d'autres personnes. Ils ont récupéré Tyrese et sa fille et un copain de sa fille, je crois. Et donc du coup, ils vont dire que non, là, c'est trop dangereux. Donc ils repartent dans l'autre sens. Ils vont ailleurs. Ils vont trouver donc de l'aide dans une petite ferme et essayer de vivre un petit peu là-bas. On apprend aussi un nouveau rebondissement. C'est quand même que on l'a déjà appris au tome précédent ou pas
hein, oui.
Que la femme est enceinte.
Non, on l'apprend à ce tome-là, je crois bien.
Mais bon, là, je spoil pas, c'est au début du tome. Hein. Mmh. Donc, la femme du héros
est enceinte. Et probablement pas de lui.
On n'en sait rien.
On n'en sait rien, mais je dirais probablement pas de lui, parce que sinon, ça manquerait un peu de charme.
Oui, mais en fait, non, c'est que surtout, elle ne sait pas.
Oui, elle ne sait pas. Bah, elle peut difficilement savoir. En
fait. La femme de Rick, ça y est, je sais retrouver le héros, c'est voilà. Rick.
Et c'est vrai que les tests ADN sont devenus difficiles. Ah, avec la fin du monde, les zombies, tout ça.
Surtout quand t'as plus d'électricité, t'as sa ADN, c'est un peu complexe.
Ouais.
Donc dans cette ferme, donc ils vont retrouver un petit peu de calme, de bonheur, une sorte de tranquillité. Mais ils vont vite apprendre que le fermier en fait est un gentil, que lui il se considère qu'on peut soigner ces gens-là.
Plus tard.
Un jour.
Et que donc mais il les garde.
Dans une grange. Et là,
forcément, le drame va arriver. Enfin bon. On a un bon petit résumé de l'intrigue. En fait, on a deux histoires, en gros. Hein. Il y a d'abord cette petite cette zone résidentielle qu'ils ont trouvée. C'est la première histoire dans laquelle ils essaient de s'installer. Et la deuxième histoire, c'est cette rencontre avec ce groupe de survivants qui vivent dans leur ferme plutôt bien, en fait, et qui pensent qu'on va pouvoir soigner un jour les gens qui sont malades. Bon, le gars le pense, parce qu'il y a son fils dedans aussi. Hein.
Oui.
Et donc, des confrontations de points de vue différents. Et c'est ça qui est intéressant dans The Walking Dead, je trouve.
C'est que pas tout le monde a le même avis sur les zombies, en fait.
Pas que sur les zombies, sur comment gérer la vie. Et tous les avis sont très défendables, surtout. C'est ça, moi, que j'aime bien.
Je crois que dans beaucoup de films, on va dire, enfin, entre guillemets, catastrophes, tu peux avoir, quand il y a eu un grand bouleversement dans le monde, tu peux... Tous les avis sont défendables.
Oui, enfin bon, on n'est pas non plus dans le classique histoire à la Stephen King où tu as un gars qui pète un câble et qui va essayer de tuer tout le monde. Dans Stephen King, c'est toujours ça, je ne sais pas si tu as remarqué.
Je ne suis pas assez fan de Stephen King.
Non, enfin, c'était, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas lu de nouveau. Mais tu as toujours le...
Mais c'est plus lui qui les écrit, de toute façon.
Ouais, j'en sais rien. Enfin, c'est toujours, au bout d'un moment, le gars qui, alors qu'ils essayent de survivre pour s'en sortir, va péter un câble et foutre le bordel. Là, on est plus dans des rencontres d'opinions où on n'a pas de méchants, en fait. Il n'y a pas de méchants. Il y a des gens qu'on n'aime pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, des points de vue qu'on n'apprécie pas, mais il n'y a pas de méchants. Et les personnages essayent d'évoluer comme ils peuvent, surtout, et de s'en sortir, malgré tous les problèmes qu'ils ont.
La survie.
Et faire un gosse dans cet univers.
La survie, et puis surtout, c'est avoir ses prétentions, on va dire, un petit peu égoïstes, qui sont son propre développement personnel, vis-à-vis du développement d'un groupe qui... Lui aussi a chacun des envies et un objectif.
Ouais.
Non, c'est sympa. Vraiment sympa, Walking Dead. Maintenant, on va voir comment ça évolue dans les 10 prochains tomes.
Ouais.
Quand on aura rattrapé notre retard et que nous serons au même point que tout le monde.
Eh bien, moi, je dirais qu'on est dans le classique Kirkman, en fait. Hein. Il prend une thématique, on va dire, éculée. Et il raconte des histoires intéressantes avec. Voilà, c'est ce que je disais précédemment avec Invincible. En plus, là, on se démarque beaucoup plus des autres histoires de zombies qu'on avait pu lire, donc le 28 jours plus tard.
Surtout que là, on intervient vraiment dans l'histoire, donc, voilà. Parce que le premier tome faisait clairement penser à 28 jours.
Voilà. Donc, moi, je pense qu'on va faire une chronique du tome 3 assez prochainement. Il y a des chances.
Dans 15 jours ?
Ouais, ça dépend des sorties. On va voir, ça dépend des sorties.
Ouais.
C'est les trucs que je prends quand il n'y a pas trop de sorties. Les rattrapages.
On va jamais finir.
Ouais. Le dessinateur a changé. Ah, tu ne l'avais pas constaté.
Pas moi.
Et pourtant, le style est très différent. On passe de Tony Moore à Charlie Adlard. Charlie Adlard, dont on avait pu apprécier le style dans la petite histoire à la fin du premier tome.
Ouais.
Voilà.
Ça, je me rappelle, par contre.
On a un style un peu moins géométrique, un peu plus approximatif, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a
Le style géométrique, c'est... il ne fait pas quand même des bonhommes à tête triangulaire.
Oui, non, il ne fait pas des bonhommes, mais disons que...
Non, mais ça va, c'est une boutade.
Voilà, on a un trait un peu plus hésitant. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Non, mais t'as pas... Aïe. Tiens, voilà. Prends ça. Et voilà ce qui se passe quand je suis content de pas de son avis.
On a un style, je dirais, un trait un peu plus hésitant, mais qui va bien avec cette ambiance d'hésitation, de doute, de, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, on a quelques scènes choc, en plus, qui sont superbement dessinées. J'aime bien. On a ce côté humain. Disons que j'ai un peu plus de mal à reconnaître les personnages que dans le tome précédent. Il y en a certains qui se mélangent un peu pour moi. Même si en début de tome on a un résumé de qui est qui dans les personnages, ils n'y sont pas tous.
Disons que surtout c'est qu'après en fait tu vas avoir le moment où ils se croisent à la ferme, où tu vas avoir on va dire les deux communautés qui vont vivre ensemble.
Oui, et beaucoup de personnages nouveaux.
Et ça devient assez. Enfin, bon, il faut suivre. Voilà, c'est tout. C'est pas. Mais c'est vrai que ça je dirais, je pense, que ça c'est quand même le gros souci du noir et blanc, c'est que de toute façon à un moment en noir et blanc, quand il y a trop de personnages, ça devient difficile.
Faut avoir un dessinateur qui sait bien. Sur Walking Dead, c'est plus facile parce que le dessin est plus réaliste que dans un Scott Pilgrim.
Oui, enfin,
donc il a beaucoup plus de marge pour personnifier les héros, ouais, les zombies, etc.
Ouais, les zombies, c'est facile quand même à refaire.
Alors, c'est vrai que Scott Pilgrim, on s'attendrait plus à un truc à la manga avec des couleurs de cheveux différentes pour les personnages, c'est ça que tu veux dire ?
Par exemple.
Voilà. Là, moi, sur Walking Dead.
D'ailleurs, enfin, là, juste, je te coupe, je suis désolé, mais on revient sur Scott Pilgrim, c'est que oui, ils ont des couleurs de cheveux différentes. Oui. Parce que même il y en a une qui se prend à un moment une manchette d'un bras bionique et sa couleur de cheveux est partie d'un coup.
Oui, c'est vrai. Et puis Ramona change de couleur de cheveux régulièrement.
Tout à fait. Et elle coupe les cheveux aussi de Scott.
Bon,
revenons à Walking Dead.
Voilà. Enfin, moi, je trouve que la série évolue bien, qu'il alterne bien les scènes d'action et les scènes de tentative de reconstruction, d'avancée. C'est une superbe BD. Je pense qu'on n'a même pas besoin de la recommander parce que tout le monde la recommande déjà autour de nous.
Pas mon dentiste.
Pas ton dentiste. Bien, il faudrait que tu la recommandes à ton dentiste. Voilà.
Hein,
qui mette le podcast dans sa salle d'attente. Voilà. Et puis bah, on va finir. Dernier rattrapage.
Les geeks.
Les geeks. Tome
1 à 9,95€.
Tome 1 qui s'appelle Un clavier AZERTY en vaut 2. Alors, comment parler de ça, les geeks?
Ah. Ah ben les geeks. En fait, les geeks, c'est, vous le lisez, si vous êtes un peu geek sur les bords, vous allez vous reconnaître, vous, reconnaître votre meilleur pote, puis vous allez reconnaître aussi deux, trois de vos amis, et quelque part, ça va vous faire quand même sourire un bon nombre de fois en vous disant « Ouais, c'est malheureusement très très vrai ce qu'ils sont en train de montrer. »
Ben moi, les geeks, donc bon, c'est un album de gags. C'est une série de gags, donc des gags en une planche, qui suivent la vie de différents personnages geeks qui travaillent dans la société qui s'appelle la Data Transfer Company, la DTC, qui, je pense, est une petite référence volontaire à une expression bien connue.
DTC au fond à gauche, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Au fond à droite, c'est au choix.
Je préfère la gauche. Donc voilà. On essaye de rester, on n'est pas explicite dans iTunes, donc on essaye de faire gaffe à ce qu'on raconte. Et donc, bah, on va suivre des gags, on va dire classiques, hein, qui nous montrent ces portraits de ces gens-là et de leur travers, et de ce qu'il y a de drôle à voir dedans. C'est pas hilarant, mais je me demande si c'est pas parce que j'aurais tendance à me reconnaître dans beaucoup des situations qui sont décrites, et où je ferais c'est drôle.
C'est du rire jaune, en fait.
Ouais, c'est «
Oui, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas dans cet univers-là aussi...
Et qui connaît des gens comme nous, surtout, je pense.
Mais oui, mais je pense que quelqu'un qui pense à cet univers-là, du coup, il ne le dit pas.
C'est une série qui marche bien, hein. Je pense qu'on connaît tous des geeks maintenant. Tu sais, le gars que t'appelles parce que t'arrives pas à imprimer...
Oui, mais sauf qu'en fait, on est tous geeks.
Donc, oui, dans notre entourage, oui, beaucoup. Quoique, dans notre entourage, non pas tous.
Ouais, bon. Ça va être une discussion
ouais, longue. On va pas vous raconter la vie de nos amis. Mais là, est-ce que tu comprends, il y a machin, il est comme ça. Et c'est surtout, moi, je trouve... en général, je suis très circonspect sur toutes les séries à gag. Pourquoi ? Parce que les séries à gag, il y a toujours un côté facile. C'est le petit cadeau qu'on va faire facilement. Genre, je vais offrir les profs à mon pote qui est prof parce que je sais pas quoi lui offrir. Je vais offrir les pompiers à mon pote qui est pompier parce que je sais pas quoi lui offrir. J'ai un pote rugbyman. Enfin bon. Et ça m'a un peu fait changer mon avis. J'ai l'impression que ces séries-là, en fait, peuvent être très drôles si tu connais des gens dans le domaine, en fonction de comment elles sont écrites. Et bon, là, c'est surtout que clairement, le collectif d'auteurs qui s'appelle Gang, comme le docteur, je pense. C'est des geeks des vrais. Les sujets sont énormes. Le dessinateur, c'est Thomas Laboureau. Et aussi, je pense, un geek, un malade. Parce que quand on voit les références dans les dessins, c'est bourré de petits détails. Avec des références à des milliers de choses qu'on adore, qu'on connaît. Du Totoro, du Star Wars, du Pac-Man. Attention, j'ouvre une page au hasard, je cherche une référence.
Du hardware.fr aussi.
Ouais. Du Superman. Caméra Café, il y a un clin d'œil Caméra Café aussi. Ça n'arrête pas, il y a un Abastag dans une planche aussi. Enfin bon, si vous êtes geek, vous repérerez les choses assez facilement. On reste sur un premier tome, donc j'ai l'impression que c'est les gags les plus évidents en fait. Moi, surtout l'impression que ça m'a donné. Que bah, c'est des blagues, c'est sympa, mais c'est les trucs les plus évidents. Donc je vais prendre les suivants parce que c'est de très bonnes lectures sympathiques pour passer le temps. Enfin les comment zut les introductions de entre les couvertures là. Oui, il y a du Doom et compagnie. Mais là, ils se sont fait un clin d'œil à Space Invaders, qui est très très bon. Et puis le dessin. J'aime beaucoup le dessin. Franchement, moi, je le trouve très très classe. Il y a un côté qui est, je pense, un juste mélange et une juste. Le gars, il a dû dévorer du manga, du comics et du franco-belge. Il a tout mixé et il en a sorti son style graphique. Non, cette.
Oui.
Voilà.
Oui.
Les cases, il a un travail sur les cases que je trouve très original. Ces cases sont pas tout le temps carrées, elles ont des angles dans tous les sens. Il a un dessin qui est très angulaire et très fin à la fois. J'aime bien la façon dont il dessine les filles aussi, c'est pas mal. Elles sont jolies sans forcément être des bombasses, des bonasses, quoi. C'est pas exagéré. Ah,
ah oui, non, si, si, non, je valide totalement.
Les personnages, pour le moment, sont pas assez caractérisés, je trouve aussi. C'est-à-dire qu'on a différents geeks, ce sont forcément des types de geeks différents, mais dans ce premier tome, on n'arrive pas forcément à savoir quel type de geek on a chez tel personnage. Ils sont un peu équivalents, en dehors de la gothique, on va dire, et de la copine du geek, qui est un peu geek aussi sur les bords.
Oui, disons que déjà, ça coupe de cheveux. Hein.
Oui, mais oui, la coupe de cheveux à la Léa.
Elle a deux pains au raisin, voilà, sur les oreilles.
Bon, la couverture nous montre bien comment se rentrer dans le sujet. Hein. La jeune fille en nuisette en string... Et le gars qui fait 2 secondes, hein, 2 secondes, je suis sur mon ordi. Et des clins d'œil. Oui, non, mais, là, c'est du vécu.
C'est ça, vécu. C'est ça, ouais.
Ah. Voilà. Et puis moi, c'est ça. C'est, je me suis retrouvé dedans. C'est bourré de références. C'est très, très drôle. Mais après, voilà, peut-être le fait d'être geek nous permet de voir les gags venir. Genre, il y a un gag sur les prises de pouvoir et de la politique. J'ai tout de suite compris de quoi il parlait. C'est terrible, hein, mais j'ai tout de suite compris de quoi il parlait. Ce qui fait que les chutes.
Oui,
bah, elle est tombée, quoi. Elle est pas passée.
Oui, parce que bon, la Palpatine, on le sent. Enfin, de suite, on fait la référence. Voilà, bon, en même temps, il joue à Magic aussi. Alors bon.
Oui, il joue à Magic, effectivement. Ce qui est marrant, c'est que les gags sont numérotés en binaire. Le coloriste aussi très sympa. J'aime bien Christian Leroll. En plus, il a fait plein plein de trucs. Lui, il bosse beaucoup chez Soleil, je pense. Hein. Puis je crois qu'on a fait un peu le tour de cette série qui est un bon divertissement.
Un bon divertissement.
Qui, dans le genre série à gag, est très sympa, alors que je ne m'attendais pas forcément à ce que ça casse trois pattes à un canard. Je pense qu'une fois qu'ils auront passé les gags un peu évidents, on aura quelque chose d'un peu plus fun derrière.
Faut voir.
Voilà. Il y a un petit lexique aussi pour aider au cas où on est perdu à la fin. Et voilà pour les geeks. Quelque chose à rajouter.
Puis aussi, ils font des petits concours. Il faut traduire les phrases suivantes.
Ah non, mais les concours, oui, ils ont lancé un concours pour la sortie du tome 5 sur Internet avec 3 niveaux de difficulté. Oh putain. ils ont un site Internet très bien foutu, ils sont présents sur Facebook. Enfin, c'est des vrais geeks, hein, ils ont une présence de partout dans tous les sens. Je suis sûr que.
Ils vont conquérir le monde.
Je suis sûr qu'on va voir des QR codes qui vont nous cacher des liens vers des trucs bientôt. Enfin, c'est.
Du coup, je voudrais acheter le portable qui va avec.
Ouais, non, mais j'ai le téléphone.
Toi, oui, ben, voilà. Toi, oui.
Excusez-moi, toi oui, tu as le téléphone, moi non.
Mmh. Bref, les geeks, c'est drôle. Et si vous avez des amis geeks, lisez-le. En fait, voilà, non. C'est le truc à offrir, pas à votre ami geek, mais à sa copine.
Parce qu'elle va le reconnaître.
Parce qu'elle, elle va être morte de rire. Et oui, tu vois devoir les chaussons taudes.
J'ai un gamin à l'école, il a un t-shirt avec le champignon à huppé.
Oh.
Quand je l'ai vu, j'ai fait. Où est-ce que tu l'as trouvé? Enfin, il n'a pas pu me dire.
Voilà, bravo ces mômes qui n'achètent pas leurs vêtements eux-mêmes. Ils pourraient faire un effort quand même.
C'est son père qui lui a acheté.
Ouais, ouais, ouais. Ah là là, ces enfants de geek, ils sont mal partis dans la vie.
C'est clair.
Donc, 9,95€ chez Soleil. Il y a peu de séries de gags comme ça chez Soleil d'ailleurs, je le note. Donc je pense que ça a dû être un bon coup de cœur pour eux.
Nous passons à la suite.
Notre hors-série.
Le hors-série, un petit peu toujours online quand même sur ce coup-là.
Ouais, toujours online et puis toujours dans la BD en fait, entre guillemets.
Qui s'appelle Uniform Motion.
Uniform Motion est un groupe de musique. Il me semble qu'ils sont toulousains. Et j'ai découvert ça grâce à Renaud, R-E-U-N-O. Je mettrai le lien vers son site sur le blog. Qui est un illustrateur que j'aime beaucoup. Qui fait de très jolis dessins, que vous pouvez voir aussi dans les recueils Café Salé, qui sortent chez Ankama régulièrement. Et c'est un groupe de pop-folk cool, pas prise de tête. qui a la particularité, c'est que dans leurs concerts, il y a toujours Renaud qui dessine en live pendant les concerts. Moi, c'est une musique que je trouve très fun, très reposante, très cool. Enfin, fun, non, fun n'est pas forcément le mot, mais très calme. C'est, on est vraiment dans la folk, pas prise de tête. Et les dessins qui les accompagnent sont superbes. Ils ont sorti deux albums. Le premier est disponible gratos sur Internet si on a envie d'écouter, de découvrir, de pas acheter. Le deuxième est écoutable gratos sur Internet. Et si on le veut en vrai ou en album, il faut payer. Mais il y a des tarifs très intéressants avec possibilité de l'acheter en dématérialisé, en album, avec un DVD, avec des bonus.
12 mois sans frais.
Non, mais c'est même pas cher. Je crois que c'est genre 5€, un truc comme ça. Enfin, c'est. Les mecs, ils ont fait des
un
tarifs.
Un album online à un prix abordable.
Ouais, non, c'est assez effrayant. Bref, c'est très sympa. J'aimerais bien aller voir en concert parce que ça doit être assez sympa. Ils ont un dispositif bien chiadé. Donc, ils ont sorti deux albums. Je ne sais pas si je peux me permettre de mettre des extraits de leur musique dans le podcast. Donc, je vais vous envoyer vers leur site où vous pourrez écouter ça très, très bien. Le lien est sur le blog. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Renaud. Il dessine plein de petits dessins mignons en plus. Et puis, s'il y a une forme de poésie dans ce groupe, c'est ce que je voulais en dire. Toi qui as écouté un petit peu brièvement avant le début du podcast.
Bah, je trouve ça très sympa.
Voilà.
Je trouve que l'idée intéressante, en tout cas.
Ouais, d'avoir ce concert avec toujours un dessinateur.
Bah, surtout, c'est que tu vois, t'as la musique et en même temps, t'as le dessin qui progresse. Quoi. Je pensais avoir, exactement.
Voilà, donc bon, c'était un HS court. On n'a pas fait notre meilleur du mieux, tiens. C'est quoi le meilleur du mieux aujourd'hui?
Ah ben, on va taper direct dans le gros blockbusters. Hein.
Ouais, alors.
Donc les geeks.
C'est vrai. Allez, ton meilleur du mieux.
Black Sad.
Black Sad, c'est ton meilleur du mieux aujourd'hui. Mon meilleur du mieux. Oh, c'est difficile là. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui m'a semblé super top parfait de la mort. Je vais dire Black Sad aussi parce que c'est classe, même si j'ai une certaine déception sur le Black Sad.
On
attend peut-être trop de Black Sad.
C'est un peu ça. Je pense que peut-être que dans le prochain, il va falloir quand même qu'ils fassent un truc qui tranche vraiment avec ce qu'il y avait avant, ou qu'ils reviennent à un truc qui nous déchire en deux. Parce que si, il faut pas qu'ils passent dans une dérive commerciale.
Voilà, bon, on verra.
Bon, maintenant, ils sont déjà en plein dedans.
On n'a pas le choix, qu'on a du succès, on passe forcément dans le commercial, c'est comme ça. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont réussir à garder leur fraîcheur.
On va
dire frais. Ah, allez. Putain, c'est bon. Arleston, nous faisons des jeux de mots en ton honneur.
Ouais, le Landfast est resté dans les annales.
Nous allons conclure ce podcast fort sympathique. Hein, voilà, hein, le podcast DTC, comme on dirait chez les geeks.
Le podcast catastrophe.
Voilà. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas donc à nous laisser des commentaires sur
Des non-commentaires aussi.
Voilà, ou sur iTunes et sur le blog. On peut nous trouver donc sur notre blog blog.jeudepied.org, twitter.com/oneaipied et facebook.com/oneaiclub.
Ah non, oneaiclub,
ouais, non. Oui, je sais, nous avons un nom à coucher dehors. J'en ai même trouvé un vachement mieux, mais après, donc c'est trop tard. Ouais, je trouvais que La Voix des Bulles, tu vois, ça aurait été pas mal comme titre d'émission. Hein, La Voix des Bulles. Bon, maintenant j'ai un nom à coucher dehors et quand je dois l'expliquer aux gens le nom du podcast, tant te dire qu'ils me regardent tous avec des yeux bizarres. Merci de nous écouter.
Ouais, c'est là-dessus.
À bientôt. À dans 15 jours. Ciao, ciao.
Hello. Ah non, pas hello. Au revoir.
Au revoir.